les ondes éphémères. Actualité de la compagnie Création Éphémère et du théâtre de la Fabrique.
Les spectateurs, sans eux, il n'y a pas de théâtre. Théâtre n'est pas quelque chose qu'on peut faire seul chez soi. C'est l'expérience vivante au moment même et partagée.
Édito du trimestre.
Chaque individu qui lutte est un îlot de liberté. La sécurité est au cœur du débat et suscite attention toute particulière au sein de l'opinion publique, de nos politiques. Mais de quelle sécurité parle-t-on ? Résolument orientée vers un théâtre engagé, la compagnie Création Éphémère occupe depuis 40 ans et occupera encore les plateaux pour mettre les idées en débat. C'est une magnifique expérience de liberté. La véritable sécurité, c'est celle de l'emploi, de la liberté d'expression, de l'accès aux soins et bien naturellement à la culture. Le théâtre et la politique ont toujours entretenu des liens intimes depuis Sophocle jusqu'à Brecht, en passant par Molière et Shakespeare. On entend de plus en plus des voix qui s'élèvent pour dénoncer ce mariage dangereux et la censure déguisée avance pas à pas pour attaquer cette liberté d'expression. Pour moi, le théâtre est politique, c'est une évidence. Une lutte permanente pour interroger ce bien commun, celui de la pensée. Nous avons besoin de cette sécurité-là. À travers nos prochaines créations, je vous invite à partager vos réactions, vos émotions, vos opinions dans ce magnifique lieu du théâtre. Partagez les mots de Jeannot, comme Jaurès, de Philippe Forgeau, ceux de Rouge, d'Emmanuel Darly.
Merci Philippe pour cet édito d'une onde éphémère un peu particulière, puisque un événement important pour la compagnie Création Éphémère, on en parlera tout à l'heure, mais c'est les 40 ans de la compagnie. Et moi j'avais une question peut-être à te poser d'abord, et puis chacun pourra aussi prendre la parole, c'est profiter de ton expérience et qu'on puisse parler un petit peu du monde de la culture d'aujourd'hui, des politiques culturelles aujourd'hui, et comment toi, qui connais ce milieu depuis de très nombreuses années, comment tu vois, comment tu perçois son évolution et quelles sont les sonnettes d'alarme que tu aimerais tirer pour que nous gardions les yeux ouverts.
Je pense que dans l'édito que j'ai écrit, que je viens de dire, ça se résume à effectivement une dégradation complète de la liberté d'expression à travers la culture. Alors, attaque à la liberté d'expression à travers des faits par rapport aux élus, que ce soit de l'État, que ce soit de ville, que ce soit de région. Je donne un simple exemple. En l'espace de 40 ans, puisqu'on va parler de nos 40 ans, l'espace public est devenu un espace public pour le public, mais pas pour les artistes, puisqu'il faut à chaque fois... la rue, maintenant, c'est devenu des grandes institutions. Il faut aller dans un festival, donc avec des spectateurs conquis d'avance ou qui viennent pour un festival. Pour moi, c'est pas véritablement l'appropriation d'un espace public par la culture. Voilà, il y a des lois qui ont été faites de telle façon que, effectivement, on va filtrer. C'est-à-dire, on va donner l'autorisation à la condition que, effectivement, le contenu, les comédiens, etc., puissent être freinés ou censurés avant, puisqu'on demande une autorisation, il y a des autorisations qui ne sont pas faites. D'une part, alors là, je ne vais pas m'étendre, mais c'est vrai qu'il y a un organisme qui s'appelle l'Observatoire des politiques culturelles. On peut aller sur le site et s'apercevoir que de plus en plus, il y a des accros entre, dans les libertés d'expression, toute culture, tout art confondu. Nous, on en a subi là, un certain temps. C'est la première fois qu'un spectacle qui était programmé n'a pas été programmé à la dernière minute. Donc soyons vigilants. Et puis on dirait que dire que le théâtre est politique, ça devient presque un mauvais mot, un mot interdit, alors que l'histoire montre depuis 2000 ans que l'acte de l'art, tout simplement l'acte d'un artiste, est politique. Et je finirai par dire que les artistes, ils sont loin aussi d'être innocent dans ce genre de comportement. Il y a de très très d'une façon très très souvent, l'artiste ne se mobilise plus. Je pense à véritablement des grands artistes inconnus qui, particulièrement le monde du des concerts, etc., qui disent très peu de choses au public. Quelquefois, ils ont 6000 jeunes devant eux et il n'y a pas un mot qui est dit sur notre engagement politique. Voilà, donc je suis très, on va pas dire que je suis pessimiste, je suis très optimiste parce qu'il y a du boulot.
Il y a du boulot, restons combatifs parce qu'on a quand même reçu les nouveaux états généraux de la culture à la Fabrique, c'était en janvier dernier et c'est quelque chose qui s'organise un petit peu partout en France, qui réunit à la fois des acteurs culturels, des artistes ou des spectateurs. Et ce qui est un peu ressorti, je crois, de ces échanges aussi, c'est la dimension de monde dans lequel on va, c'est l'industrie culturelle, c'est-à-dire un monde où la culture devient de plus en plus rentable et de ce fait qui limite les libertés justement d'expression, parce que l'artiste se censure quelque part un peu lui-même, puisqu'il faut que son spectacle puisse être vu, puisse être joué, puisse être qu'il y ait du monde dans la salle. Et donc c'est aussi ce vers quoi on est en train de se diriger. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent ajouter quelque chose sur ce qu'on a pu entendre, notamment dans les états généraux de la culture, où on a vu aussi l'importance que les artistes disaient, c'était de se réunir. Il y avait aussi ça dans les paroles des gens, qu'on était de plus en plus enfermés dans oui. nos...
pris dans nos réalités économiques et sociales et individuelles.
Et peu de temps où on peut échanger justement sur ces questions-là pour essayer de faire bouger les choses. Je crois que d'autres états généraux sont peut-être prévus.
Oui, il y a des... on a eu les premiers états généraux au niveau de l'Aveyron chez nous, on a été très fiers là, et en janvier. Et là, il y a une date qui se profile pour que ça soit plus dans le Nord Aveyron. Donc on est en train de... pour qu'il y ait les deuxièmes états généraux au niveau de l'Aveyron. Je profite pour dire aussi, j'insiste hein, sur les artistes. Il y a eu pas mal d'articles en ce moment là-dessus. Je veux dire, un artiste qui est neutre, aussi, ça se fait de plus en plus, c'est-à-dire, ouais, on va pas parler de ça, on est neutre dans ce qu'on va faire. Waouh. Je pense qu'on peut pas être neutre en tant qu'artiste, c'est impossible. Voilà. Même à travers la poésie, à travers, on a toujours des choses à dire, sinon l'artiste, il est quoi? Il devient une machine au pouvoir de l'État, et il va faire des choses compatissantes, aimantes, voilà. D'où toujours ce discours qui revient. Le spectacle vivant doit être quelque chose qui fait rire. Bon, j'ai rien contre, mais quand on voit l'industrie culturelle qui nous pousse là-dedans, quand on voit, et on va en revenir tout à l'heure, à des discours vieux comme Hérode, j'allais dire non, vieux comme Malraux, par exemple, qui condamnait déjà d'une façon très forte ce mouvement populiste à tout prix de vouloir que les gens aillent uniquement, hein, je parle bien sûr, aillent uniquement voir des spectacles distrayants pour passer le temps, pour se distraire, pour pas penser.
Je crois qu'il disait que Jules pour César, se divertir, il y avait les entr'actes.
Bien sûr, Jules César avait bien compris ça depuis très longtemps.
Merci, on passe à la suite.
Actualité de la compagnie Création Éphémère.
Actualité donc de la compagnie Création Éphémère et aussi un grand événement qui arrive très prochainement. Nouvelle création de la compagnie, Jeannot comme Jaurès. Kevin, je te passe la parole.
Moi, j'étais ouvrier. Un ouvrier heureux. Un ouvrier qui travaillait avec ses mains tout en pensant avec sa tête. Un ouvrier qui façonnait ses pensées avec tout son corps. J'en avais de la tête aux pieds des pensées, partout, en bandoulière. Et puis, avec le temps, la machine m'a broyé, le système, les soreuses. J'ai basculé dans le grand tambour. Il a tout nettoyé en moi, le grand tambour m'a rincé, séché, vidé. Il a repassé toutes mes pensées, le grand tambour, sont devenues sèches, mes pensées. Il a fait de moi un robot, en fait, le,
le grand tambour, une machine. Un petit hamster mécanique qui tournait dans sa roue, sans même plus savoir pourquoi elle tournait la roue, ni pourquoi il la faisait tourner la roue. D'ailleurs, est-ce que c'est le hamster qui faisait tourner la roue, ou bien la roue qui faisait tourner le hamster, qui l'emportait dans son manège infernal à toute vitesse, toujours plus vite, et cadence, tiens, un tourbillon. Même plus de temps de penser, de se retourner, de regarder devant. Ne plus regarder. C'est ça le problème. J'ai même pas vu ma femme s'en aller. J'ai juste senti son absence un jour. Oh, c'était trop tard. Est-ce que c'est toujours trop tard dans la vie? Pourquoi t'es partie, Suzanne? À cause de mon regard vide, hein? Ouais. C'est triste, un regard vide, hein? Tu me le disais parfois. Marcel, t'as plus de regard. Ah, pourtant j'étais là, tu sais. Là, mais pas là. Tu es, mais pas mort, comme il dit Jeannot. Ah, t'avais raison sans doute. Il n'y avait plus Dieu dans mon regard, plus de regard dans mes yeux. Comme un aveugle, le Marcel. Les yeux grands ouverts qui ne voient plus rien. Et puis il y a eu notre petite fille, la petite Adèle, qu'on a perdue. C'était avant ou après que tu sois parti? Je sais plus. Tout ce que je sais, c'est que c'est là que j'ai fermé les yeux. C'est là que je me les suis cousus définitivement, les paupières. Ça m'a fait mal, j'ai hurlé, j'ai pleuré. C'est là que je crois que les migraines ont commencé. Et puis je suis resté tout seul avec Jeannot. Ou plutôt, Jeannot est resté tout seul avec moi.
Merci pour ce chouette extrait sur une écriture de Philippe Forgeot. La mise en scène sera de Philippe Flao. Et est-ce que là, tu viens de nous dire une partie du texte, des mots du père? Est-ce que tu peux, est-ce qu'il y a le père et le fils? Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du projet?
Oui, ben l'idée c'était de faire d'abord une commande d'écriture à Philippe Forgeot, avec qui la compagnie travaille depuis de nombreuses années, sur la figure de Jean Jaurès, avec, quand on s'est réunis autour de la table, également avec Philippe Flao, au démarrage du projet, c'était de surtout pas faire une reconstitution historique. Donc je crois que... Mais on verra peu ou pas Jean Jaurès dans le spectacle. Par contre, on sentira fortement sa présence, on sentira forcément sa pensée, sa pensée à la fois philosophique et politique, à travers surtout, je crois, aussi ce qui ressort beaucoup, une relation humaine, une relation sensible, un amour entre un père et un fils, avec une histoire familiale, comme malheureusement il en existe beaucoup, une histoire familiale traversée par des moments difficiles. Avec donc ce personnage du père qui est un personnage qui doit avoir, je sais pas, 55 ans et qui est au chômage, qui a eu une vie militante à un moment donné, mais qui par, je crois, la difficulté de sa vie et les coups qu'il a pu prendre, est dans une sorte de fatalité et plutôt assis face à un autre personnage très présent qui est une télévision, qui entre progressivement dans sa tête la pensée dominante actuelle de notre société. Et un fils, Jeannot, son prénom lui vient aussi de Jean Jaurès, c'est un clin d'œil, parce que voilà, je pense que le père voulait porter ce prénom à son fils, et ce fils qui y croit toujours, qui a encore envie de se lever, qui a envie de lutter, de résister, et qui va s'engager. Je vous raconte pas la fin, c'est une fin très sensible, très émouvante, sur l'engagement de ce fils. Voilà, je sais pas si j'ai bien résumé.
Une très belle performance d'acteur, parce que Kevin va jouer au même temps le père et le fils, et c'est à découvrir le 18 avril à la Maison du Peuple à 20h30.
Voilà, ben merci.
Il n'y a pas de réservation, juste préciser que il y a du préachat en ligne via
Eloasso,
voilà, c'est ça.
Et on joue en bas au studio Martha Graham, donc la jauge est limitée, donc voilà, si vous voulez avoir des places, prenez-vous assez vite.
Maintenant. On enchaîne, la compagnie Sur les routes, voilà, très, très court, c'est juste pour vous dire qu'effectivement, la depuis sa création, chaque saison, la compagnie tourne ses spectacles à travers toute la France, un petit peu aussi en Europe. Et puis, si parmi toutes les créations qui sont actuellement sur les routes, n'hésitez pas à nous contacter ou aller... à nous rencontrer ou à nous contacter via le site ou via une adresse email ou oui, le site de la compagnie, tout simplement. Hein, voilà. Parce qu'on ne va pas énoncer toutes les dates. La prochaine, c'est quoi? C'est le 4 avril au Viala du Tarn avec 10.
Le 3 avril,
le 3.
Viala du Tarn, ouais, puisque le 4 avril, on démarre le montage technique de Jaurès.
Ah oui, c'est vrai. Donc demain, on est sur 10, Das et Cali et après, c'est Jaurès. Ben voilà.
Tu peux nous parler peut-être de la formation professionnelle qui démarre le 20 avril, je crois.
Ouais, formation professionnelle donc du Centre d'art dramatique qui a été inauguré, lancé, créé par Philippe Flahaut en 94, je crois, quelque chose comme ça, qui devient une formation professionnelle, alors qui a beaucoup évolué depuis sa création, mais qui est ouverte à toutes et tous, personnes en situation de demandeur, demandeuse d'emploi. Donc inscrite France Travail, c'est une formation qui est ouverte aussi aux personnes en situation de handicap et formation pour adultes à partir de 16 ans avec différents modules liés au théâtre, à la pratique du théâtre. Je ne vais pas les énoncer, mais voilà, il y a 245 heures de formation qui sont fractionnées en 5 modules avec la possibilité de faire une centaine d'heures en entreprise, sur le terrain, aussi en fonction de son projet personnel. La formation démarre là en avril, elle est complète pour cette année, mais par contre, comme elle est reconduite en principe chaque année, n'hésitez surtout pas à venir nous rencontrer pour en parler, pour qu'on puisse vous donner des explications.
Ouais, pour te couper dis-moi. Sur le « en principe, chaque année
voilà. ».
C'est un appel d'offres, les formations professionnelles, et je tiens à dire donc que là, c'est un nouvel appel d'offres de la région Occitanie, et ça rejoint ce qui a été dit en début d'émission sur les attaques faites au secteur culturel. Je crois de tête, jusqu'à présent, il y avait au moins 6 ou 7 formations professionnelles d'acteurs en région Occitanie. Philippe me fait même signe que c'était sans doute plus.
Il y a aussi les formations professionnelles liées au domaine artistique, c'est-à-dire preneurs de son.
Oui, là je parlais d'acteurs, oui. De comédiens. Et il y en aura, sur ce nouveau banc de commande, il n'y en a plus que 2. Donc c'est quand même une baisse énorme de l'offre de formation pour le secteur donc, culturel, du théâtre en particulier. Et ça doit être effectivement exactement la même chose pour les métiers de techniciens, les métiers qui gravitent autour du monde du spectacle vivant. Et juste préciser aussi peut-être que cet appel d'offres, nous y répondons également avec l'ESAT artistique de la Bulle Bleue qui est à Montpellier, qui est un ESAT dont le travail, la mission est de créer et de diffuser des spectacles et de former des artistes en situation de handicap ou non. Et donc, ce sera un projet mutualisé entre la compagnie Création Éphémère et les ZAD de la Bulle Bleue, où je crois d'ailleurs le spectacle figure de la compagnie a été présenté il y a quelques jours maintenant dans le théâtre de la Bulle Bleue qui s'appelle Le Chez, qui est un superbe lieu. Voilà pour ce qui était de la formation professionnelle. On peut passer à la page Actu de la Fabrique.
La suite.
Actualité de la Fabrique.
1986, Création Éphémère est née. Et cette année, on fête donc les 40 ans de la compagnie Création Éphémère. On est très contents d'être toujours là. Et on vous donne rendez-vous le 2 mai à 18h devant l'office de tourisme de Millau. Il y aura une surprise, une rencontre.
Une performance.
Une surprise, on ne sait pas trop ce que ça va donner encore.
Il y a des noms qui circulent.
Oui, ça commence à circuler.
Ça commence à circuler.
Même des noms assez importants, je crois.
Oui, mais bon.
Mais on dira rien, c'est une surprise.
On dira rien.
Certains ont déjà confirmé leur venue. On me fait signe de ne pas les donner encore. Mais voilà, attendez-vous à des belles, belles, belles surprises.
Voilà.
Et peut-être autour de cette table, je ne sais pas si Jean-Pierre, tiens par exemple, qui est avec nous, qui est peut-être le plus ancien comédien de la compagnie. Je sais pas, est-ce que tu as une anecdote à nous dire sur la compagnie, sur un spectacle en particulier, un personnage ou voilà, une tranche de vie en tournée, je sais pas.
Oui, comme vient de dire Kevin, je suis le plus ancien de la compagnie. J'ai commencé le théâtre en 1992 avec mon ami Philippe Flau qui était juste à côté de moi et il m'a dit: est-ce que tu veux faire du théâtre avec nous? J'ai fait « Pourquoi pas ?» tout peut avoir, quoi. Alors j'ai commencé. Alors il m'a dit, bon, mais maintenant on va te donner les textes, il te faudra les apprendre par cœur. Et mon point de vue de théâtre, ce que je retiens le plus, c'était l'auberge aux étoiles. Ça, c'était un texte qui m'a plu, quoi. Il fallait le savoir par cœur. Et puis après, bon, il y a d'autres souvenirs que j'ai eus. Il y a Zol, il y a L'enfant sans nom, et tant d'autres pièces que j'ai jouées, quoi. Et là où je regrette le plus, c'est notre ami Michel Géniaud qui nous a quittés, malheureusement. Et quand on avait joué Zol. Alors Zol, c'était une grosse pièce bien cadrée, quoi. Il fallait apprendre les textes par cœur et tout. Et aussi, il y a un autre comédien que j'aimais bien, que j'ai appris récemment. C'est la personne avec qui j'ai joué, c'est Bernard Coapé. Donc, je n'ai pas su...
Malheureusement, nous a quittés il y a
quelques jours. Il y a peu de temps, quoi. Et lui, je garderai de lui un bon souvenir, parce que lui, c'était un bon comédien. Nous faisions part tous les deux ensemble. Et c'est une figure que je ne perdrai jamais, quoi.
Est-ce que, je sais pas, Sergio, on parlait notamment de Zol, je sais pas si toi aussi t'as une anecdote.
Je croyais que tu voulais que je parle de Bernard Coapé.
Si tu veux, ou de la compagnie, voilà, d'un
Moi,
souvenir.
Moi, j'ai attaqué le théâtre à Sainte-Afrique, les ateliers de Sainte-Afrique que vous dirigez maintenant. Les premiers ateliers, c'était avec Bernard Coapé. Ça se passait à l'école Jean Blanchard, hein, je crois, dans une petite salle, où on était 5 ou 6.
Et un souvenir, je ne sais pas, sur la compagnie, un des spectacles, compagnie, oui. Un personnage.
J'ai commencé mon premier personnage, c'était dans De l'autre côté, je remplaçais Rachel qui faisait une vieille dame avec du Beckett, justement.
Un texte de Samuel Beckett.
Samuel Beckett,
c'était... Olé, bonjour.
Olé, bonjour. Ouais. Je me rappelle, yeah.
Je ne sais pas, Marie, si tu as, toi aussi, une... Petite
Ben moi, quand je suis arrivée, mon premier spectacle, là, ça fait 38 ans, moi, et c'était Loft, et c'était dans le beffroi de Millau. C'était sur une expérience de Siffre qui s'était enterré dans une grotte où on avait été le rencontrer justement avant la descente de Véronique Lugen. Et c'est vrai que c'était très intéressant parce que c'était une sorte de performance. Il n'y avait pas plus de 19 spectateurs dans le beffroi. Et c'était une expérience assez incroyable. Il y avait une danseuse qui descendait en rappel du haut du beffroi, toute enduite d'argile. Et c'était vraiment...
On en parlait tout à l'heure en préparant l'émission, justement, où on se disait que peut-être ce serait compliqué aujourd'hui de refaire des performances aussi folles parce que du coup, les autorisations, les sécurités, bloqueraient peut-être un peu cette folie créatrice.
Elle était nue, parce en que... plus. Hein. Elle était nue.
Non, elle n'était pas nue. Elle avait une espèce académique. On aurait cru qu'elle était nue, mais elle ne l'était pas. Mais il y avait quelque chose de très drôle. Par contre, c'est que Philippe jouait le rôle d'un guide. Et il y avait des tout petites marches pour rentrer dans la salle où on jouait au beffroi. Et il y a une dame assez forte qui est venue. Et Philippe jouait le guide et il a dû la pousser pour qu'elle passe par les petits escaliers. C'était un souvenir extraordinaire.
Et moi, très vite, alors un souvenir tout premier, je ne connaissais pas du tout la compagnie, j'étais tout petit. Il se trouve que la compagnie, c'est au début de La Fabrique, parce que La Fabrique a 31 ans, je crois. Et il y avait le Cyclope. Et je me rappelle, toutes les classes de Millau, on y allait. Et en rentrant dans La Fabrique, qui est un peu une antre, voilà, il y avait un comédien, je ne sais absolument pas qui faisait peur au public qui rentrait.
C'est Vincent. Bah,
c'était toi.
Je m'excuse.
Et donc ça, je m'en rappelle encore d'être rentré par rang comme ça, et un comédien comme ça qui te surprend un peu comme dans un train fantôme. Donc ça, c'est un souvenir. Et puis après, le deuxième souvenir, c'est bien plus tard, même s'il y en a beaucoup d'autres. Alors, j'étais pas du tout dans le spectacle, mais c'était lorsque Eugène Durif a écrit L'enfant sans nom. Il se trouve que quand je passais mon bac théâtre, on avait Eugène Durif, un des textes au programme, quoi. Et d'un coup, 2-3 ans après, je rencontre finalement l'auteur, simplement j'avais eu son livre et je l'avais étudié au bac, et je trouvais ça formidable de pouvoir le voir en chair et en os, quoi.
Pleure pas, Goran.
Moi, Mon premier souvenir de Kevin, c'était de la fabrique. La première fois où je suis venu à la fabrique, on m'a interdit de rentrer parce que Kevin, c'était complet. Il jouait l'addition et c'était complet. Il m'a dit, mais vous n'avez pas réservé. Et
mais j'espère que tu as réservé pour le 18 avril.
C'est
parce
la première
que...
fois. Et non, le 18 avril, je pars en vacances.
Ah, oh, mince.
Je laisse ma place à quelqu'un.
Oui, il y en a, enfin, y en a des centaines, des centaines, des milliers de souvenirs. Il y a aussi une fois, aussi, à Toulouse, je me promène, il y a un grand gaillard, grand type, d'1m80, là, qui se moigne. Et tu te rappelles de moi? Ben non, pas du tout. En fait, il était venu à la fabrique quand il était dans une école en banlieue au Mirail. Et il est venu ici, où il avait fait tout un parcours sur l'Antiquité avec l'agrofezin et la fabrique, notamment sur le cyclope de Ripide qu'on avait monté, qui était les débuts du squat, parce qu'au début c'était quand même un squat pratiquement, la fabrique qui s'est officialisée assez vite, mais n'empêche que c'était quand même quelque chose d'un acte déjà révolutionnaire de Philippe Flao, de Michel Géniaud, voilà. Et ce type avait... vécu une semaine de théâtre complète où on avait monté un cyclope de Ripide avec, je sais pas, il y avait 10 langues différentes et c'était assez fort parce que voilà, ça lui a donné sa voix et il est parti dans la langue, dans les mots, voilà.
Philippe,
ouais, juste une petite anecdote au niveau de la compagnie, donc à peu près dans les années, je ne sais pas, 2000 par là, non? C'est L'Enfant sans nom, beaucoup plus tard.
2003. 2005 ou 2006.
Non. Répétition.
2003, c'est Zoll.
Répétition à Rodez. Non.
Non, je ne la raconte pas, ça.
Non, je t'en prie, je ne la raconte pas. On enchaîne. Donc, rendez-vous le samedi 2 mai à 18h devant l'office de tourisme pour fêter les 40 ans de la compagnie Création Éphémère. Je donne la parole à Vincent parce que du 6 au 14 juin, il va se passer les fins de travaux de la compagnie au Théâtre de la Fabrique. Vincent.
Oui, c'est nos fins de travaux, effectivement, des ateliers enfants, ados, adulte de la compagnie, et je vais donner la parole à Marie-Angèle, qui est une des comédiennes de l'atelier adulte en pratique amateur. C'est ok pour toi, Marie-Angèle?
Oui, tout à fait.
Allez, c'est pour toi.
Oui, donc moi c'est Marie-Angèle Malavol. Je suis élève dans l'atelier Philippe, animé par Marie-Déneige Flao. On est une dizaine en situation de troupe. On se voit un dimanche tous les mois. Ça dure 6 heures environ. Et je dois dire que cette année, il y a une belle énergie et dynamique des élèves. Voilà, je suis très contente d'être parmi ce groupe et d'apprendre le théâtre.
Juste pour rebondir sur ce que tu dis, chaque année, toute la compagnie, on se donne un thème unique au sein des ateliers, que ce soit pour les enfants, les adultes, les ados. Cette année, on a choisi le thème de la trace, voilà, sur les traces d'eux, laisser une trace. C'est quoi la trace sur un plateau de théâtre? Est-ce que tu veux nous dire quelque chose?
Moi, je peux me fier uniquement à ce que on fait comme travail autour d'une pièce d'Alexandra Badea qui a été écrite en 2018, qui s'appelle justement « À la trace ». Donc, j'ai le rôle d'une psychophone. C'est un métier qui n'est pas très connu. Et je vais peut-être vous dire un extrait.
On t'écoute.
Pas de problème à l'accouchement? Le cordon enroulé, peut-être? Cette courbe-là montre que vous ne percevez pas un certain type de son. Ça pourrait être lié au cordon. Et là, plus tard, vers un an, sur l'oreille droite. L'oreille droite, c'est la mère. On dirait un problème avec la mère. Je ne dirais pas un syndrome d'abandon, non, mais quelque chose de proche.
Merci. Waouh. Bon, ça donne envie. Ça sera... Alors, toi, tu es dans l'atelier Philippe. Donc, c'est le dimanche 14 juin avec tes partenaires de plateau. Voilà. C'est entre le 6 et le 14 juin. Ça sera à 20h à chaque fois, les fins de travail. Il n'y a pas de réservation. C'est dans la limite des places disponibles. Et c'est au chapeau. Voilà. Participation libre. On a des cartes blanches aussi au mois de, au mois de juin.
Oui, une carte blanche, une première carte blanche, c'est la deuxième année. C'est vrai que entre le travail qu'a pu mener Philippe Flao, que j'essaie de poursuivre en spécialité théâtre au lycée Jean Vigo, mais aussi le travail qui est mené à la compagnie à travers les ateliers ados, aussi le Extrême Ado mené en partenariat avec le Théâtre de la Maison du Peuple, et bien un collectif d'adolescents s'est créé. Ils ont monté leur troupe et donc ils vont présenter leurs travaux le mardi 2 juin à Vincent. Peut-être tu peux nous en parler un peu, ce sera à 20h.
Ils se sont formés l'année dernière déjà, ils étaient venus présenter leur proposition, parce qu'ils sont vraiment en autonomie, on les aide techniquement, on les aide aussi en les accueillant à la fabrique, voilà. Et là, effectivement, le mardi 2 juin à 20h, ils vont présenter les derniers fragments. C'est toujours un peu le délire chez les ados. Là, ils sont dans une écriture collective, donc leur texte, leur mise en scène, ils se débrouillent. Et là, c'est pour la faire un peu courte, c'est des membres de la Bibliothèque de l'Humanité qui doit s'accorder sur des fragments, sur des souvenirs, ce qui est important. Pour l'humanité de rapatrier sur Terre. Voilà. Enfin, c'est toujours dans des dystopies, mais en même temps, il y a toujours une espèce de fond sur ce qu'ils vivent dans l'actualité aujourd'hui.
Sur leurs rêves, sur l'importance.
Ouais, il y a plein d'énergie, en tout cas, c'est chouette au plateau.
Et on poursuit encore sur des cartes blanches avec un projet qu'on accueille maintenant, c'est la troisième année, mené par la compagnie Orageuse et Sarah Carlini. Ça s'appelle La Caravane des Dimo. C'est un projet mené en partenariat avec la DRAC Occitanie et la région Occitanie. L'idée, c'est que chaque année, donc il y a 10 mots qui sont proposés. Et Sarah donc travaille avec un groupe de jeunes sur une création alors pluridisciplinaire avec plusieurs artistes. Elle mêle à la fois l'écriture, le théâtre, la musique et la danse. Là, on se tourne vers un univers plutôt hip-hop avec des textes originaux, donc écrits par les jeunes. Ça s'appelle Petit Prince et Petite Princesse. Ils sont 18 à avoir travaillé et seront présents sur la scène de la fabrique le dimanche 7 juin à 17h. Et également une autre carte blanche, toujours avec la compagnie Orageuse de Sarah Carlini. Ça, c'est un projet mené avec le CADA de Sainte-Afrique. Le CADA qui vient en aide aux personnes qui arrivent sur notre territoire et qui essayent de les accompagner au mieux. Et
je crois que ça, c'est un projet culture et lien social.
Culture et lien social, c'est ça, un partenariat, je crois, avec Habitat Humanisme.
Ouais.
Et elle a travaillé, donc c'est des gens qui ont plein d'origines, donc des langues très diverses et différentes. Ça s'appelle Terrien, Terrienne, les Ulysse. Donc c'est autour de l'Odyssée et du mythe d'Ulysse, une réécriture à partir de leurs mots et de leurs imaginaires. Et ça, ce sera le mardi 16 juin à 20h30. Voilà pour ce qui était des cartes blanches. Et puis je crois que on enchaîne maintenant avec ce qui nous occupera en fin de saison.
Oui.
La Fabrique des Enfants, un festival de théâtre familial avec des spectacles, des histoires, des personnages et des enfants.
La Fabrique des Enfants, donc un festival dédié au tout jeune public. Cette année, c'est la 14e édition. Et c'est du 27 au 31 juillet. C'est un moment qui est très important pour la compagnie, un rendez-vous de fin de saison où beaucoup de bénévoles participent à cette opération. Il y a aussi une grande aide des sponsors. Vincent va vous en parler.
Oui, on a des partenaires effectivement. Des gens qui sont artisans, qui ont des boutiques, mais qui ont envie de nous aider, de faire du... J'aime pas trop le mot sponsoring, mais en tout cas, je sais pas. Ils nous aident financièrement aussi, mais parce que je crois qu'ils soutiennent.
Ils soutiennent
vraiment. Et des fois, je crois qu'ils préfèrent mettre des sous en soutenant une cause sociale, culturelle, justement.
Oui, et puis il faut revenir un peu à la genèse. Je me rappelle maintenant, il y a 14 ans, on se disait, tiens, l'été, on pourrait faire quelque chose, on pourrait jouer. Et puis c'était l'idée de jouer nos spectacles. Et puis l'idée, je crois que c'est Marie qui avait évoqué l'idée de l'ouvrir à d'autres compagnies pour qu'il y ait de l'échange et de la rencontre. Et c'est vrai que ce moment est devenu un moment incontournable maintenant, parce que ça dure depuis 14 ans. Et puis un moment de fête aussi pour l'association, un moment où, où on se retrouve toutes et tous. Et je crois qu'aussi, ça fait partie du soutien que ces gens-là nous accordent. Ouais,
Marie, elle disait, elle a parlé de... C'est vrai que des bénévoles, il y a Marie-Angèle, il y a toute l'équipe des adultes, mais aussi il y a aussi de la jeunesse, c'est-à-dire il y a des ados qui d'un seul coup vont passer une semaine avec nous, brasser de la technique, de l'accueil, de la com, du décor, du montage de spectacle, et vivre un moment de compagnie professionnelle. Sur le terrain, et donc ça peut aussi susciter des vocations.
Et avec une forme de festival un peu particulière, puisqu'il faut quand même le rappeler, on est avant tout une compagnie de théâtre qui créons et diffusons des spectacles. On a un lieu que l'on met à disposition pour malheureusement toutes celles et tous ceux qui n'ont pas la chance d'en avoir un, et donc en accueil des résidences, on propose effectivement une programmation culturelle, mais ce n'est pas notre mission première. On n'est pas comme par exemple le théâtre de la Maison du Peuple, donc, dont la mission est de diffuser des spectacles. Et donc ce festival a une particularité, c'est qu'il est, je l'appellerais comme ça, mutualisé, c'est-à-dire que l'ensemble des compagnies lève aussi, donne la main à la pâte, et puis surtout l'ensemble de tout ce qui rentre, je vais dire, économiquement dans le festival, tout est partagé, voilà, équitablement, et à la fin, le festival, l'objectif, c'est qu'il se termine à 0 € et que tout le monde puisse être payé, ce qui est le cas depuis 14 ans. Et ça, c'est aussi un modèle économique qui fonctionne, et un modèle humain aussi. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire par rapport à ce qui se passe au festival. Donc, il y aura lieu du 27 au 31 juillet. La programmation est en cours. On a une réunion ce soir, justement, et puis vous la découvrirez très prochainement.
D'autres choses à dire, Marie ?
Non ? Non, c'est juste que en juillet, on peut vraiment profiter de la fraîcheur de la voûte, de la fabrique.
Oui, ça, c'est sûr.
En face de ces puissances, on a compris qu'il n'y a qu'une seule autre puissance. En face de la mort, il n'y a que ce qui résiste à la mort. En face des puissances de la nuit, il n'y a que l'immortalité. Pour des raisons assez mystérieuses, tous les gens qui sont ici ont compris que tantôt avec la douleur et tantôt avec le rire, ce qui avait survécu pendant les siècles et tes larmes la meilleure que le monde puisse trouver contre ce qui était en train de le menacer. Telles sont, mon général, les raisons qui ont guidé les femmes et les hommes qui sont devant vous. Je tenais à vous le dire en leur nom.
Oui, voilà. Donc ça, c'est pour les personnes qui n'auraient pas reconnu, c'est la voix de Malraux, puisque c'est cette année, c'est les 50 ans, je crois, de sa disparition. Mais on avait quand même envie de placer ces quelques mots, mais de rebondir dessus. Philippe, tu veux conclure là-dessus ?
Ouais, c'est un personnage très ambigu, Monsieur Malraux. Mais quand même, on sent certains verbes, certains mots, certaine élégance.
Une certaine conception de la culture.
Exactement, que non, absolument plus. Je n'ai pas toujours vu jouer les vieux, mais les Dati et...
Et les Bachelot.
Et puis les directrices de Versailles. Voilà, bon.
Donc le petit message, c'est aussi qu'on a envie d'avoir peut-être un ministre de la culture qui soit digne de la culture, justement.
Voilà, bah, peut-être ça va conclure. Et aussi... toujours de faire un grand merci, parce que culture et radio libre, grand merci à Radio Larzac, parce qu'il nous accueille à chaque fois, et c'est super. Merci.
Merci à vous.
Les ondes éphémères. Actualité de la compagnie Création éphémère et du théâtre de la Fabrique.
Les spectateurs, sans eux, il n'y a pas de théâtre. Théâtre n'est pas quelque chose qu'on peut faire seul chez soi. C'est l'expérience vivant au moment même est partagée.